On se tutoie
sur Nostalgie. Jean-Luc Reichmann.
Sur la route du week-end, nous avons Amel Ben qui a un petit peu l'œil humide. C'est quoi cette histoire?
C'est émouvant comme émission avec toi. Là.
Ben ouais. Mais quand ça même. Va quand même.
Je suis sensible, moi.
Ben oui, ben je sais, c'est pour ça que t'es là, de toute manière. On va savoir si notre auditeur ou notre auditrice, je crois que c'est un auditeur qui appelle de Perpignan, et ça te fait sourire, on va en reparler. Allô Guillaume, bonjour.
Bonjour Jean-Luc, bonjour Amel.
Bonjour Guillaume.
Comment allez-vous? On se tutoie avec Amel, mais on vous voit les auditeurs quand même.
Ça va super bien, je suis ravi, et en même temps je suis un peu ému parce que je vous adore à tous les deux.
Non mais alors ça devient une émission d'émotion de radio.
C'est une émotion de radio.
Voilà, une émotion de radio, c'est exactement cela. On va voir si vous connaissez bien votre Amel, puisque évidemment cette rubrique s'appelle Tu connais bien ton Amel. Guillaume, vous êtes de Perpignan et justement Amel Ben, t'as un message à tous les Perpignanais et à toutes les Perpignanais.
Ah non, c'est horrible.
Si, tu me l'as dit. Tu me l'as dit pendant
d'accord.
La virgule.
Vas-y. C'était une anecdote de tournée. Je suis passée à Perpignan en 2023 pendant les festivals d'été.
Ouais.
Et c'était le Tour de France. Alors, Tour de France, c'était 2022 ou 2023?
Que je sache, c'était pas, c'est pas grave du tout.
C'est
ça.
Pas important.
Ouais, c'est pas important.
En tout cas, c'était au moment du Tour de France.
Et cycliste.
Voilà, cycliste.
Il pédalait comme des fous,
donc il y avait beaucoup de monde, etc. Et nous, on décharge donc sur une place là-bas.
Tu parles évidemment d'un concert que tu allais faire.
Oui, le concert que j'allais faire le soir.
On décharge des caisses de carottes et tout ça.
On décharge le backline, comme on dit, donc tout le décor, ouais. les pratos et les instruments et compagnie.
Quand tout à coup.
Et dans ce chargement, il y a mes deux ventilos. Parce que moi, je mets des cheveux, je rajoute des cheveux pour la scène, parce que ça fait des beaux cheveux qui volent.
C'est un peu la Jean-Pierre Foucault du PAF.
Exactement. Ouais. Et en fait, il y a quelqu'un qui nous a volé un ventilo.
Donc
pendant le concert, j'avais les cheveux qui volaient que d'un côté. Voilà. Donc j'aimerais le Perpignanais ou la Perpignanaise qui m'a pris mon ventilo. Je tiens à vous dire que voilà, je m'excuse auprès du public qui a vu les cheveux voler que d'un côté. Il faisait très chaud, c'était la canicule. Il faisait 42 degrés ce jour.
J'adore l'idée quand même de l'auditeur qui se dit ça veut dire quoi, elle rajoute des cheveux.
Guillaume, si c'est toi, rends le ventilo.
Promis, c'est pas à moi.
Ouais, Guillaume.
C'est une petite anecdote rigolote.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Guillaume?
Ah ben, je suis à mon compte et en fait je fais des micro-trottoirs dans les festivals et tout, donc à l'occasion.
Ah, c'est trop cool.
Ouais, je développe ça et avant j'ai fait un peu de radio aussi, donc je suis trop content d'être toujours de l'autre côté de la radio en tant qu'auditeur maintenant.
Je me demandais ce que ça sentait, mais ça sent le bonheur en fait.
Ah ouais.
Ah oui, ça sent le bonheur.
Ça sent le bonheur.
Eh bien écoute Guillaume, on va voir si tu connais bien ton Amel. Pendant 60 secondes, je pose des questions et la règle du jeu est simple, tu réponds à mes questions. Alors ça c'est quand même super important. T'es prêt Guillaume?
Je suis prêt.
Allez, force à toi.
Ouais,
allez, merci.
Forza.
Tu peux gagner un ventilo.
C'est vrai d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut gagner? Ah d'accord, il y a des places de concert pour aller te voir. En plus, elle est partout. Et tu choisiras entre Montpellier, Lyon, Marseille l'année prochaine. En plus, ça va quand même donner fort. Elle nous promet un spectacle extraordinaire, quasiment dans tous les zéniths de France, pourvu que le ventilo tienne. Attention, Guillaume, ça commence maintenant. Vrai ou faux, Amel Ben, t'es né le jour de la fête de la musique?
Vrai.
You win.
Quelle émission lance sa carrière? La Nouvelle Star ou Star Academy?
Nouvelle Star.
Comment you s'appelle win. Son premier album? Un jour d'hiver, un jour d'été?
Un jour d'été.
Avec oui. Quelle artiste française, you Amel, win. Écrit-elle son premier single, Ma Philosophie Vita ou Diams?
Diams.
You deux win. Célèbres artistes de la chanson française ont contribué à son succès, Aznavour et Obispo ou Big Flo et Oli?
Aznavour et Obispo.
Amel enregistre la bande originale d'un film, High School Musical ou James Bond?
High School Musical, j'adore.
Amel est en finale de Danse avec les Stars, c'est vrai ou c'est faux?
C'est vrai.
Elle chante en duo avec une immense star française à Bercy, Johnny ou Joey Star?
Johnny.
En 2020, elle devient coach de quelle émission, The Voice ou N'oubliez pas les paroles?
The Voice.
Comment s'appelle l'immense carton qu'elle sort en 2020 avec Jiménez, Jusqu'au on ou Jusqu'au bout?
Jusqu'au bout.
Bah, dis donc, on peut l'applaudir.
Franchement, t'es trop fort, Guillaume. Bravo. Tu as gagné deux ventilos.
Ouais.
Tes cheveux vont voler des deux côtés.
Un à droite et un à gauche. Tu auras la joie, évidemment, d'aller voir en tournée où tu veux, d'ailleurs.
Trop bien.
Non, mais ça,
ah,
fait,
c'est génial.
Ça fait super plaisir.
J'aimerais bien faire une interview en backstage. Hein, avec
ah, bon, on va trouver la solution.
Hein. Attends.
N'hésite pas à contacter la prod.
Toujours trouver.
Allez, sur place. On trouvera du temps, t'inquiète.
Avec Amel. Non, mais si elle le dit, en plus, elle le fait. C'est une catastrophe.
Catastrophe.
C'est le jour de la fête de la musique, donc.
Et le jour de l'été.
Ouais.
Le solstice d'été, la journée la plus longue.
Il suffira d'un signe, là, quand même.
Un matin, voilà. Ou pas.
Non, mais quand même, ça fait... Qu'est-ce que tu fais les 21 juin, toi?
En général, je chante, et ça, c'est vraiment cool.
Ouais, et les gens, ils te disent bon anniversaire.
Ouais, sur scène, les gens, ils chantent, ouais.
Ils allument les téléphones.
Bah, quand j'étais petite, bah, c'est une anecdote que je raconte, mais ma mère, elle m'amenait dans la rue le jour de mon anniversaire. Et elle me faisait croire que tout le monde fêtait mon anniversaire.
Ouais, ça, c'est beau. Quand même, ta maman... J'ai eu la chance de la connaître il y a 15 ans et plus. Elle a toujours été là comme une, je sais pas, comme une petite étoile qui brille à tes côtés à chaque fois.
Ouais, une guerrière, toujours maman louve, maman protectrice, maman merveilleuse.
D'accord. Alors, il s'est pas beaucoup trompé du tout, même Guillaume. Effectivement, la nouvelle star, on en a parlé, cette reprise de La Bohème, Guillaume. Vas-y, parle-en. Allez-y, pardon.
Ah, La Bohème, oh là là, ben j'adore, mais c'était vraiment un moment suspendu. J'étais devant mon écran, ma télé, avec toute ma famille, on était là, je vais... Non, mais ça, c'est vraiment, on a vécu un moment d'émotion intense, comme on le sent, ben encore plus quand on va te voir en concert, Amel.
Tu vois.
Je fais un peu La Bohème, mais déjà, merci beaucoup. C'est vrai que c'était un moment très émouvant pour
tu
moi.
Tu vas le faire au Zénith, là?
En général, je fais un peu de, je chante forcément Aznavour en concert. Ouais. Toujours un petit bout de quelque chose. Même, j'avais même fait un medley sur une tournée où je chantais plusieurs chansons.
On a tous en nous un bout d'Aznavour.
Ah bah moi, ça c'est sûr que, bah, de manière, il m'a adopté spirituellement, il l'a dit. Il a dit que j'étais une de ses enfants spirituels.
Effectivement.
Voilà,
alors, il avait raison, évidemment. Il avait raison, Guillaume, avec Diams, on en a déjà parlé. Aznavour et Obispo à 20 ans, on en a parlé. High School Musical, très très bien. Alors là, quand même, là où tu nous surprends, c'était il y a quand même 12 ans, Danse avec les Stars. Alors là, c'est pas Nelson Montfort ou Sophie Davant, tu y vas.
Non, mais
je les critique pas. Mais tu y vas, franchement, parce que on parlait des différences, hein, où tu as eu du mal quand
c'est
même.
C'est pour ça que je l'ai fait.
Quand tu as été adolescente, avec toutes tes blessures, et là, tu y vas et tu te jettes dans le grand bain.
Bah, comme j'étais très complexée et que même chanter ma philosophie, ça me faisait du bien, mais ça soignait pas vraiment. Je me suis dit, comme je suis quand même née pour le public à la télé, peut-être que ce besoin que j'ai de prendre possession de mon corps, de faire un peu la paix avec lui, peut-être qu'il faut que je le fasse aussi finalement sous le regard des gens. Et je me suis dit, s'ils m'amènent loin, c'est qu'ils acceptent cette évolution. Et j'ai une pensée évidemment pour Christophe Licata qui a été exceptionnel avec moi, qui a trouvé les mots, les gestes, qui avait le regard qui m'a permis vraiment de changer. Et la tournée qui a suivi, j'ai senti la différence. Il y a eu un avant et un après. C'est comme si j'avais vraiment réglé plein de trucs par rapport à
non
mes complexes.
Non mais tu te fais violence à la base.
Là-bas, je me fais violence. Le premier prime, je m'en souviens, je pleurais avant. Je me disais, tout le monde va me trouver grosse. D'ailleurs, même les articles, hein, j'étais pas favorite, quoi.
Ouais. Et parce tu vas jusqu'au bout et tu gagnes.
J'ai pas gagné.
T'es en finale.
Mais j'ai perdu contre quelqu'un qui a été exceptionnel, Emmanuel Moir. Et franchement, j'ai vécu sa victoire. Pour moi, on avait gagné ensemble, quoi, parce que je voulais tellement qu'il gagne. Enfin, arrivé à la fin, derrière, il n'y avait plus rien. Donc, de toute façon, pour moi, on a été au bout, tous les deux, avec notre histoire, notre chemin personnel. C'était merveilleux.
Voilà, c'est ce qu'il y a d'assez extraordinaire. Ce sont tes combats permanents. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu dis, là, ça ne va pas être possible. Et puis, bing, tu y vas, parce que tu te fais violence à chaque fois pour aller toujours plus loin et toujours plus haut. C'est le cas de le dire.
En tout cas, j'avais envie de me battre. J'avais envie de changer le regard sur moi. Je voulais me prouver à moi-même que c'était possible, que c'est pas parce que j'avais des formes et des rondeurs que j'allais être un gros sac qui peut pas bouger, qui peut pas être souple, qui peut pas danser, qui peut pas être techniquement évoluer techniquement. Je l'ai fait. Je me suis battue. Franchement, parfois je faisais le double de répète des autres. Christophe Licata, je me rappelle. Bah, je parle encore de ma mère, mais quand elle l'a vu. un mois après le début de l'émission, elle est venue me voir sur place là-bas et en loge, elle l'a vu, il avait perdu, je sais pas, 10 kilos. Il était cerné comme pas possible. Elle lui dit, eh bah, dis donc, toi, je crois que quand tu portes ma fille, c'est comme si tu portais toute la famille. Mais il était épuisé parce que moi, je voulais faire les portées comme tout le monde et tout. Bah, alors oui. Que quand j'ai commencé l'émission, on faisait le même poids, lui et moi, quoi. Franchement, il a assuré. Normalement, il est avec des petites plumes. Et là, bah non, c'était pas une plume. Mais on s'est battus tous les deux, franchement, comme des warriors et on a été au bout. Et
Guillaume, ça, c'est extraordinaire quand même. Vous vivez comment, vous, derrière votre télévision
Mais j'adore. Mais mon rêve, déjà, c'est. J'aurais tellement aimé être dans le public à ce moment-là. Et puis j'adore Danser avec les Stars. C'est une magnifique émission. Franchement, même Christophe, voilà, ça sent le sud et comme si du sud, bah voilà.
Cette
chaleur, bah voilà, de la Méditerranée, mais de la. Enfin voilà, c'est vraiment. C'est le soleil qu'on a, même Jean-Luc, toi aussi, de Toulouse et tout. En plus, moi, j'ai ma soeur qui habite à Toulouse, donc je lui fais un petit coucou si elle nous écoute.
C'est magnifique. Non, mais ce que je veux dire, Guillaume, c'est qu'elle se bat sans arrêt et elle oui. pousse les murs toujours plus loin, quoi.
Exactement. C'est une artiste. Voilà, depuis le début, moi, je l'ai commencé à regarder la Nouvelle Star et enfin voilà, j'ai toujours suivi là où elle est dans les émissions. Enfin, c'est vraiment. Et puis là, juste d'être avec toi au téléphone, là, c'est vraiment un moment privilégié que je trouve.
Ouais, mais on laisse la parole aux auditeurs. Nous, tu sais, nous.
Merci,
on est comme
Guillaume.
Ça. C'est
merci
un grand
beaucoup.
Moment. Alors bon, on a rencontré Johnny, on en a parlé. Et puis il y a aussi un élément déclencheur. Il y a pas si longtemps que ça, c'est que tu deviens coach dans The Voice. Ouais. Là, c'est d'un seul coup, tu te dis quoi? C'est la transmission, c'est je vais essayer de faire passer des émotions, de leur dire moi aussi j'étais différente, toi aussi tu peux y arriver.
Alors, faut savoir que moi on m'a proposé avant The Voice pas mal de rôles comme celui-là, de jury, de coach. Et je voulais pas parce que justement j'avais un peu mes traumatismes à moi de fit casting qui est pas tombé tout le temps sur les bonnes personnes. Et j'avais peur d'être cette pas bonne personne, de dire le mot qu'il faut pas, de blesser. Et bon, j'ai rencontré
avec tout ce que t'avais encaissé, excuse-moi de te couper, mais t'étais quand même la bonne personne justement pour avoir cette élégance dans le propos.
En tout cas, je voulais être sûre que quand on connaît pas The Voice, quand on regarde de loin, on sait pas comment ça se passe, on sait pas si les coachs, on les force un peu à faire l'émission, à dire des choses, etc. Moi, j'ai rencontré la The Voice Family entre guillemets, la prod. Et je me suis rendu compte que c'était une petite famille de gens bienveillants. Et je me suis dit peut-être que là-bas, justement, je vais réparer. Peut-être que justement, quand je vais voir des personnes, des chanteurs, des chanteuses passer sur cette scène, bah, je vais peut-être avoir l'occasion de leur dire des choses qui va pas leur faire du mal, même s'ils vont pas forcément aller plus loin dans l'aventure. Peut-être que je vais avoir la chance de pouvoir leur dire des choses qui vont les rendre heureux, qui vont les rendre plus forts et leur donner envie de se battre encore. Peut-être pas dans le programme, ailleurs, mais pas des choses qui vont les abîmer. Et donc, j'ai saisi cette occasion finalement, j'ai accepté, et en fait, j'ai adoré.
Ah ouais,
j'ai adoré. Je me dis, j'ai vraiment cette chance de pouvoir dire les choses que j'aurais aimé qu'on me dise. Même quand c'était pas bon, même quand c'était pas l'heure, quand c'était pas mon moment, qu'on me dise quelque chose qui me donne du courage, et pas quelque chose qui me fasse douter de moi ou douter de ce que j'ai envie de faire dans la vie.
Mais toi, tu as quand même vraiment, tu scannes en deux secondes les gens et tu vois quand même cette hyper sensibilité qu'ils ont. Et vu que tu as été blessé à chaque fois entre 12 ans et 18 ou 19 ans avant que ça, qu'il y ait eu le vrai déclic, tu savais prendre le chemin psychologique, c'est le cas de le dire, non?
Je sais pas, je sais. Ce que je sais, c'est que je ressens les gens. En tout cas, surtout les chanteurs, il y a quelque chose dans le regard, il y a quelque chose dans les gestes qui ne trompe pas. Alors, il y a quelque chose dans la voix déjà.
Ouais.
On dit que les yeux sont le reflet de l'âme, mais la voix aussi.
Ouais.
Donc, déjà, dans la voix, on sent des choses. Et puis, quand on se retourne et qu'on voit la façon de se tenir, la façon de regarder, moi, je pense que les coachs, mais même le public, en vérité, on perçoit un chemin, on perçoit une vie, des blessures, des rêves.
Avec ces auditions à l'aveugle, déjà, parce que c'est quand même, tu vois, la frustration quand ils sont pas pris, quoi. Moi,
c'est douloureux. Après, il y a une réalité. Je sais que parfois, même les gens, même sur les réseaux, ils nous pourrissent et ils ont raison parce que on a envie de tous les accompagner. Mais le jeu est pas fait de cette manière-là. Le jeu est fait d'une autre manière. On voit. C'est un jeu. Donc on voit 150, 200 personnes, on n'a que 14 places chacun et malheureusement le jeu, les règles du jeu sont comme ça et même ceux qui viennent chanter le savent. Et dire non à quelqu'un qui a du talent, ils savent tous chanter, ils ont tous quelque chose, et pourtant on est obligé d'attendre le coup de cœur. Et le coup de cœur, il est tout sauf objectif. Il fait écho à ce qu'on a nous dans le beat, dans le cœur, etc. Donc parfois c'est irrationnel, et c'est ça aussi qui fait que c'est un métier qui est magnifique, c'est parce qu'on sait jamais quand est-ce que sera le rendez-vous. Et moi, c'est ce que je leur dis à chaque fois, même quand ils sont pas pris.
Ça, c'est vachement beau.
Il y a toujours un rendez-vous. Ouais. On sait pas. C'est peut-être demain, tu vas chanter dans ton piano bar, et il va y avoir la personne qui va changer ta vie. Donc, comme t'as chanté aujourd'hui, je chante tout le temps comme ça. Comme si c'était le rendez-vous. Et pour moi, c'est hyper important parce que je sais que j'en ai eu plein des rendez-vous et j'en ai eu un seul bon. Sur des années de rendez-vous.
Voilà, le rendez-vous, il est avec Amel Ben ce soir, et puis avec Guillaume. Guillaume, sur la route du week-end, il y a un titre, toi, qui t'a marqué plus qu'un autre d'Amel, quelque chose qui t'est resté à tout jamais dans l'oreille ou pas, Guillaume?
Bah, bien sûr, l'incontournable Ma philosophie, je pense que c'est un parcours qui m'a, en tant que jeune, moi j'ai 30 ans aujourd'hui, et ça m'a bercé du collège, jusqu'au lycée, et c'est vrai que et même aussi quand t'avais repris la version de Vivre ma vie de High School Musical, pour te dire, un matin avant de partir au collège, j'étais là, il y avait ma grand-mère qui regardait la télé, et puis j'ai vu ce clip, j'ai dit waouh, quoi, c'est ouf, comme quoi en fait la magie de l'artiste, et puis avec cette rencontre que t'as sûrement vécu avec les équipes musicales de Disney, je pense que c'était vraiment un moment aussi qui t'a ému, peut-être.
J'adore
aussi
Guillaume, moi.
Ah ouais, moi aussi, j'aime beaucoup, vraiment.
Je suis fan. Guillaume, c'est un grand bonheur. Tu vas évidemment aller voir pendant sa tournée Amel Ben, c'est l'année prochaine. Pour
et me faire une interview. Hein.
Et quand elle dit les choses, elle n'a pas besoin de les promettre. En revanche, je te promets que derrière Amel, il y a une très 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 belle personne. On va parler évidemment de ce nouvel album qui n'est pas si triste que ça, en fait.
Non.
Je trouve assez, assez beau, avec une décharge mentale, comme tu as pu en avoir une, peut-être avec Monsieur Johnny Hallyday. Merci beaucoup, Guillaume.
Merci beaucoup,
Guillaume.
Merci à vous deux. Merci pour ce moment. Et voilà, petite dédicace à ma maman qui était à côté, là, en train de. Voilà.
Un gros bisou à la maman, alors.
On embrasse toutes les mamans et tous les ventilateurs de Perpignan.
Exactement. Et puis, peut-être à l'occasion que je vienne te voir, Jean-Luc, sur le plateau, avec grand plaisir.
On se tutoie jusqu'à 20h.
Et maintenant, Jean-Luc te pose des questions sans filtre.
Wow. Alors avec Amel Ben, si vous venez de nous rejoindre, c'est assez rigolo parce que quand t'écoutais la musique, tu te revoyais chantant en face de Johnny Hallyday, tenant le pied de micro, et tu l'as broyé, tu disais.
Je l'ai broyé, ouais. Littéralement. Mmh. J'avais à la fin des traces sur, comme quand on porte des sacs trop lourds là.
Ouais.
Je sais pas pourquoi j'avais l'impression que si je lâchais le pied de micro, j'allais tomber à la renverse, quoi.
Ouais. C'est le regard, il est hyper important pour toi. C'est-à-dire qu'il y en a qui baissent le regard, mais par rapport à Johnny Hallyday, t'as eu du mal à le soutenir.
Ah oui, il fallait que je le regarde dans les yeux. Quand on chante avec quelqu'un, beaucoup de choses se passent dans le regard, et il y a des artistes qu'on a un peu plus de mal à soutenir. Et lui, c'est vrai qu'il y avait quelque chose de puissant dans le regard. Et j'essayais, et puis. En fait, ça me rendait timide. Voilà, j'étais un peu timide.
Ça ne m'étonne pas. Alors, les petites questions sans filtre. D'abord, évidemment, ce titre triste, qui n'est pas si triste que ça, en fait. D'où ça vient, tout ça? J'aime bien avoir l'inspiration des titres, parce que décharge mentale, moi, tu m'as perforé, en fait. C'est le cas de le dire. Émotionnellement, ça a été assez fou. Je crois que c'est le 8e album.
Oui.
Tu peux en parler aux auditeurs, parce que ça va être quand même la base aussi de cette tournée l'année prochaine.
Donc l'album va s'appeler Minuit Une.
Ouais.
Pour moi, Minuit Une, c'est ce sas entre hier et demain. C'est la fin du jour, c'est le début du lendemain, mais on est encore la nuit. Donc il y a cette incapacité à être dans l'action. Donc tout se passe dans la tête. Mmh. Et moi, c'est un peu les heures où, ça y est, tout le monde dort, où je commence à gamberger, quoi. C'est la gamberge. L'écriture, beaucoup. Et cet album, il a été conçu comme ça. J'ai beaucoup écrit, j'ai repris la plume. Et le premier titre, c'est Décharge mentale. Ouais, c'est la première chanson que j'écris.
Ouais.
Parce que j'essaye vraiment d'écrire une vraie chanson. Mmh. Et j'ai toutes ces idées, toutes ces pensées qui m'assaillent à ce moment-là. Et puis du coup, je me mets à les écrire. Ouais. Faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et puis je pars de choses.
C'est
qui
la
sont
liste de courses en fait.
Ouais, c'est la to-do list comme on dit.
Ouais, la fameuse.
C'est la petite liste qu'on accroche sur le frigo.
Les fameuses factures de 2004 à mettre un petit peu. Là, ça m'a fait beaucoup rire quand même. Hein.
Ben en plus, c'est vrai. Tout ce que je dis dans la chanson est vrai.
Ouais. Donc les enfants, cet équilibre avec les enfants, c'est pas compliqué le matin là. Voilà, on est vendredi, tranquille, on est le 7 mars. Ce matin, comment ça s'est passé?
Comme tous les matins.
C'est-à-dire le petit déjeuner, on y
7h10,
va.
7h10 le réveil.
Ouais.
Je cours à la cuisine, je fais le biberon avant que le Little Monster se réveille.
Ouais.
Parce qu'il ouvre les yeux et biberon. Donc il est là, tout est là. Voilà, le biberon, la madeleine.
Ouais.
Les céréales des petites, puis après, allez, on va tous se brosser les dents, on va tous faire la toilette.
Mais toujours pas le popo.
Non, il veut pas.
Mais qu'est-ce que c'est que ce beans?
Bah, il a fait tout plus tard que ses sœurs. Hein. Il a marché plus tard, il a marché à 19 mois, vous vous rendez compte?
Ouais.
Mes filles, à 10 mois, elles couraient. On avait l'impression que c'était des nourrissons sur pattes. Elles étaient toutes petites. Non, lui, c'est le petit gars, il prend son temps. Par contre, c'est une tête. Il parle hyper bien, mais il veut pas. Il comprend, il sait qu'il doit aller au pot. Il dit oui, maman, je vais aller au pot, mais il y va pas. Voilà. Donc le pot est à disposition. Il veut pas. Il veut que je lui change les couches.
Voilà, je trouve ça quand même. Et tout est dans la.
En tout cas, tout est organisé. Tout est bien organisé à la maison, mais l'organisation. En fait, la charge mentale, il faut comprendre que c'est pas forcément les choses qu'on fait. C'est les choses auxquelles on pense.
Ouais.
Et c'est complètement irrationnel. Parfois, ce qu'on pense, c'est pas forcément des choses qu'on va faire tout de suite ou qu'on doit faire dans la journée.
C'est une espèce de procrastination au bout
d'un moment. C'est une procrastination cérébrale et on est tout le temps en train de penser à aujourd'hui, à demain, à la semaine prochaine, à dans un mois, les vacances, les inscriptions. En fait, c'est toutes les pensées. Et c'est pas que le fait d'être maman. C'est un tout. C'est un tout. On est maman, on est aussi fille d'eux, on est sœur, on est, enfin. Et à un moment donné, on est au boulot aussi. Donc, quand il y a trop de pensées, quand il y a trop de choses en suspens, etc., on a l'impression que le cerveau va exploser. Et moi, j'ai beau avoir un conjoint qui est génial, qui a un super papa, etc., mais j'avoue qu'il, lui, il est dans l'action, par exemple, mais c'est moi qui pense. Mmh. Donc, c'est vrai qu'aussi, il attend de moi que je prenne aussi certaines décisions, que je fasse certaines choses. Je sais pas si c'est. Les choses sont faites comme ça. Alors je dis pas qu'il faut pas, je dis pas que c'est parce que c'est fait comme ça qu'il faut pas qu'on change certaines choses aussi. Je pense que c'est un système en fait,
mmh.
où j'ai l'impression que moi je suis un peu une centralisation de tout. Mmh. Et c'est cette centralisation de toutes les pensées, de toutes les prévisions, de toutes les projections à tous les niveaux qui fait qu'à un moment donné il y a une espèce de surchauffe du cerveau qui est épuisante en fait.
Mais voilà, t'arrives à tout mettre dans les cases quand même. T'as un tableau Excel en toi qui te permet quand même de tout faire et de bien y arriver.
Oui, j'y arrive. Franchement, j'y arrive bien. C'est assez militaire. Moi, dans ma tête, je suis ultra organisée. De toute façon, j'ai pas le choix. Mm-hmm. J'ai choisi de faire un métier qui est complètement. Enfin, je veux dire, il y a pas d'horaire, il y a pas de. Je peux rien prévoir. Tout est tout le temps aléatoire. Il y a que des incertitudes. Mais c'est le métier que j'ai choisi. C'est le métier qui me rend heureuse. Mais je dois composer avec ça aussi. J'ai décidé d'avoir mes enfants, personne m'a forcé. J'ai décidé d'en avoir trois, pas un, pas deux, trois, parce que j'avais envie d'avoir un foyer, une famille avec plein d'enfants.
Un petit quatrième bientôt.
Franchement, là, la vérité, je suis fatiguée. Non, je voulais, moi, franchement, dans mes projections, j'aurais adoré en avoir quatre, mais je fatigue là.
Ouais.
Je sens que, en fait, les enfants, il faut les élever, il faut être là. Et puis, plus ils grandissent, plus il y a des choses à faire, il y a des devoirs qui deviennent plus compliqués, du temps qu'on prend en plus, il y a des activités extrascolaires. Ouais,
et puis, tu penses à toi aussi quand même.
Je ne veux pas faire des enfants. Moi, par exemple, j'ai pas de nounou. Je veux pas de nounou.
Ouais.
Donc moi je me démerde avec mon conjoint. Il faut que ce soit lui, soit moi à la grille en fait.
Ouais.
Donc je veux pas que mes enfants soient élevés par des nounous. Alors je sais que parfois on n'a pas le choix. Mais aujourd'hui c'est peut-être aussi pour ça que je me fatigue. C'est parce que je veux être les deux. Je veux pas être secondée. Je veux pas que mes enfants soient élevés par des nounous. Je ne veux pas. Je me rappelle quand j'étais petite de voir ma mère à la grille, c'était un truc de fou. Je cherchais quand je voyais son visage tous les jours à la même heure, j'avais la même joie de voir ma mère à la grille. Je veux pas priver mes enfants de ça. Je veux pas que ce soit d'autres gens qui viennent les chercher.
Mais c'est
je veux
que ce soit leur maman.
Et ça, bah, c'est une organisation, c'est un planning particulier, c'est des taxis motos, c'est parce que je veux que mes enfants voient ma tête à la sortie de l'école.
Ouais.
Et bon voilà, c'est je fais des choix aussi, mais et encore une fois, c'est pas que la vie de maman, c'est un tout. Et encore une fois, c'est pas une plainte, c'est une réalité. Et il y a pas que moi, Amel Ben, chanteuse, qui a cette vie-là. Je parle avec plein d'autres mamans qui font plein de boulots différents, qui ont un enfant, trois enfants. Il y a même des gens qui ont pas d'enfants et qui ressentent des femmes qui ont pas d'enfants, qui ressentent cette charge aussi. Mmh. Je pense que c'est sociétal, c'est un système, c'est pas forcément la vie qu'on a choisie. C'est tout est centralisé beaucoup chez les femmes. Et puis nous, les femmes, on a aussi un truc qui est... Où, je dis pas que les hommes n'ont pas de charge, les hommes ont beaucoup de charge aussi, mais la femme, elle a un truc qui est différent, c'est la physiologie de la femme. On n'évolue pas de la même manière au niveau physiologique. On a, les hommes sont protégés au niveau de leur physique. Nous, on vieillit pas pareil, on n'a pas les mêmes.
Ouais, ça dépend. Mais alors, c'est très, très intéressant, puisque demain, c'est la journée internationale des droits de la femme. Je trouve ça très, très intéressant.
Ah, mais les histoires d'hormones, de machin et tout, c'est beaucoup les femmes, quoi.
Et là, je me permets quand même de dire que tu m'as beaucoup ému sur la soirée des remises de la victoire de la musique, ou alors tu as parlé des batailles silencieuses. J'ai trouvé ça très 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 élégant de ta part, ce petit message subliminal, mais qui était peut-être un détail pour beaucoup, mais pour beaucoup ça voulait dire beaucoup sur les femmes. C'est ce message à la génération qui arrivait, en fait, hein.
Qui arrive, et puis dire merci aussi à nos anciennes, quoi.
Ouais.
Enfin, je veux dire, quand on prend ce chemin de la vie d'artiste, alors encore une fois, c'est une vie qu'on choisit aussi. Enfin, moi, parfois, je me dis que j'ai pas vraiment choisi non plus. C'est-à-dire que c'est toujours cette flamme qui fait que ça m'a projeté là où je suis aussi. Enfin, c'est un choix, et en même temps, c'était pas un choix. C'était ouais. Presque
une évidence.
Une évidence pour moi. Mmh. Et en même temps, ben voilà, ça veut dire qu'il faut allier cette vie d'artiste à cette vie de femme, à cette vie de mère, à cette vie. Voilà, et donc il y a forcément des batailles, et on n'est pas, en tout cas moi de ma génération, et peut-être les femmes plus âgées que moi, on n'est pas de cette génération qui parle, qui dit les choses. Donc c'est vraiment
enfin,
les plus.
Dis, tu les fais passer dans les chansons.
Je pense que la génération qui est arrivée derrière, ouais. elle a vraiment fait bouger des choses. Elle nous apprend, elle nous éduque aussi à peut-être plus s'exprimer, à peut-être moins cacher, moins juste encaisser et faire semblant.
Ouais.
Et je trouve que ça, c'est génial. C'est aussi le cadeau que nous fait cette nouvelle génération, c'est d'être beaucoup plus presque brutal dans et plus cash.
Ouais.
Et ça fait du bien, de pouvoir se dire les choses et de se dire qu'on doit s'admirer, nous, entre nanas, se dire bravo. On n'a pas besoin de tout raconter, on n'a pas besoin d'expliquer, on se sait en fait, on se sait, et ouais. Donc moi je voulais leur dire bravo, et je voulais leur dire merci, et je voulais leur dire que je les aime, parce qu'on se sait,
ouais.
Voilà.
Et c'est sans violence, et c'est tout en émotion. Et
c'est sans militantisme, parce que...
Non mais c'est ça qui est important aussi.
C'était que de l'amour.
Et de la bienveillance.
Et de la bien sûr, mais parce que c'est aussi ce que je voudrais avoir à mon égard, et j'en reçois beaucoup de la part de mes collègues, donc je voulais aussi à ce moment-là le faire aussi pour elles.
Une dernière petite question sans filtre avant de laisser la place aux auditeurs, bien évidemment, parce que voilà, c'est toujours une fermeture de parenthèse avec les auditeurs. On t'a vu dans des fictions comme Soda, comme Scène de ménage. Moi, mon fantasme, c'est que tu joues un jour une maman ou autre, d'ailleurs, dans Léo Mattei. Je t'en ai déjà parlé,
c'est
mais je vais réinsister. Ça te titille, la comédie? Je sais que les priorités, c'est les enfants. On a bien compris. La priorité, c'est la femme. Ah. La priorité, c'est
l'artiste.
C'est les concerts, c'est l'artiste. Mais le phénomène de la comédie, de l'interprétation, ça te titille ou pas?
Bah, j'ai fait quelques projets. Comme je suis un peu une malade de travail, c'est-à-dire que quand j'accepte un projet,
ouais.
Je me mets vraiment à 200% dessus,
ouais.
Et ça me prend tout mon temps, toute mon énergie, parce que je veux pas décevoir, et je veux faire honneur aux gens qui m'ont fait confiance. Donc en fait, oui, ça me titille, mais il faut pas que ça devienne une surcharge
et que je sois pas
à la hauteur, et donc vraiment pour être à la hauteur, faut qu'il y ait de la place. Là dernièrement, j'ai tourné dans un film, donc je vais bientôt pouvoir en parler.
J'en parle déjà.
Ouais. C'est le deuxième film de Romane Guéret et Lisa Coca, donc c'est les femmes qui ont fait, deux réalisatrices qui ont fait Les Pires. Et là, on vient de tourner un film qui s'appelle Ma Frère, où j'ai un rôle
très... Lequel? Juste de savoir.
J'ai un rôle de.
Sans raconter l'histoire, sans rien.
J'ai un rôle de directrice de centre de loisirs et de colonie de vacances.
Mais ça te va super bien.
Ouais, c'était cool.
T'as
franchement, c'était
une.
Non, j'ai pas le BAFA. Mais j'ai trois gosses, donc franchement, ça va, je gère. Mais. C'était une expérience exceptionnelle et on va bientôt pouvoir en parler parce que ça, c'est là je commence la synchro mi-mars.
La donc post-synchro,
c'est la post-synchro, ouais. Donc c'est bientôt fini, le montage est bientôt terminé.
Ça t'a plu ou pas?
Ça m'a plu grave, mais par exemple voilà, j'ai pas pu amener mes enfants en vacances cet été, on n'est pas parti en vacances parce que c'était un tournage d'été, donc
combien de temps de tournage?
Deux mois. Trois mois.
Donc moi, je vais te prendre une semaine et tu vas faire un rôle, j'en suis persuadé. Mais ce sont des émotions que tu as aimé faire passer parce que c'est vraiment deux rôles totalement différents, celui de la musique.
C'est deux métiers complètement différents, ça n'a rien à voir.
Et tu as ressenti cette vibration face caméra?
J'ai fini par l'avoir. Alors j'avais un problème de timidité. Dans l'acting, il y a quelque chose que j'arrivais pas à passer et j'ai eu la chance d'avoir un rôle très vraiment magnifique dans un film qui s'appelle Les Sandales Blanches, qui était un unitaire sur France 2 ou France 3, je crois. Et là, c'était un rôle important, c'était vraiment un long film et j'avoue que j'ai soigné aussi pas mal de trucs grâce à une femme qui s'appelle Karine, qui est coach d'acting.
Ah ben oui.
Et en fait, c'est un travail, c'est de la thérapie, en fait, c'est de l'art-thérapie, c'est-à-dire qu'on apprend à être à l'aise avec ses émotions.
Et avec soi-même.
À feindre le rire, à feindre le pleur. Moi, enfin, toute ma vie, on m'a dit, faut pas pleurer. Et là, tout à coup, on me dit, allez, maintenant tu pleures. Et là, je sens que j'ai
ça marche.
C'est pas ça, c'est que j'ai un milliard de barrières naturelles, en fait, autour de moi. J'entends ma mère dire ne pleure pas, ça va aller, ne pleure pas, relève-toi. Et là on me dit faut pleurer et moi mon corps veut pas y aller, je peux pas pleurer parce que j'ai appris à ne pas pleurer. Et en fait tout ce temps que j'ai passé avec Karine, ça a été retrouver aussi une sérénité dans mes émotions. Si tout à coup il faut que je pleure, il faut que je pleure. Bon, j'y arrive pas encore complètement, c'est plus facile de rire pour moi que de pleurer, mais j'ai appris à faire ce travail là et ça m'a aidé sur Les Sandales Blanches et là ça m'a beaucoup aidé dans le nouveau film que
c'est
j'ai tourné.
Parce que ça fait une parallèle tout de même avec Décharge Mentale, parce que là je t'entends parler et le résumé c'est ta musique Décharge Mentale. C'est qu'il faut tout décharger d'un côté pour laisser passer la quintessence du sentiment et de ne plus penser à rien, juste qu'à un instant T.
En fait, ce qui est étrange avec la musique, c'est que déjà, je joue pas. Parce que ce que je chante, c'est ma vie. Donc en fait, j'ai pas besoin de faire appel à quoi que ce soit. Les mots que je dis, ils déclenchent chez moi tout de suite l'émotion naturelle parce que je chante ce que je vis. Ou en tout cas, ce que je ressens. C'est mes vraies émotions que j'essaye de raconter à l'écrit. Et surtout, il y a un truc qui est hyper important, c'est que tout est très douloureux. En vérité, même expliquer mes chansons, c'est pas naturel pour moi parce que ça me prend tellement d'énergie d'essayer de les écrire.
T'as qu'à les écouter, quoi.
En fait, j'ai besoin de les chanter.
Bien sûr.
Et l'endroit où je les chante et où je me sens safe pour les chanter, c'est la scène. Parce que les gens, tout à coup, je m'invite pas chez eux, c'est eux qui payent un ticket pour venir me voir.
Ouais.
Donc c'est comme si tout à coup, ils me disaient, allez, vas-y, on est là pour toi, on est là pour qu'on partage ce que t'as à nous dire.
Ouais.
Et en fait, là, ça devient logique. Parce que les mots, c'est les miens. Ça fait appel à mes émotions naturellement. Et les gens qui viennent, ils viennent pour ça. Ils me donnent cette autorisation de leur donner mes émotions.
Alors que la comédie, c'est pas du tout automatique.
C'est pas la même chose. C'est pas automatique. C'est pas naturel. Même si on peut faire appel à des choses naturelles, il y a d'abord un appel.
Évidemment.
Et moi, ça, j'ai pas l'habitude dans la musique. Ça, ça se fait instinctivement, naturellement dans mon corps. Je vais rien chercher.
Mais toi qui aimes bien le combat et la difficulté à chaque fois.
Eh ben, j'apprends.
Eh ben, voilà, tu apprends.
J'apprends.
On va apprendre un petit peu plus sur toi pour terminer. On laisse la parole aux auditeurs sur la route du week-end, sur Nostalgie. Et figure-toi que cette petite rubrique s'appelle...
What's happened?
Sur le WhatsApp de Jean-Luc. Alors justement, il y a des gens qui posent des questions sur le WhatsApp de Jean-Luc. Tu sais, c'est ce numéro de téléphone infernal dont tu te rappelles évidemment.
Avec mille groupes.
Le 06 60 495 864.
Le numéro fiscal.
Ouais, c'est exactement ça, c'est le numéro fiscal. On a un message, alors là... Tu te rappelles si tu crois un jour que tu m'aimes, n'oublie pas un jour que tu vois, tu te rappelles?
Oui, oui.
Ça s'appelle un message personnel?
Oui.
C'est ça.
What's happened sur le WhatsApp de Jean-Luc?
Coucou mon Amel, c'est Tony. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Sache que ça fait 20 ans que tu es dans ma vie. The Voice ou pas The Voice, quand je pense aux artistes qui m'inspirent, la vérité, tu es dedans. Tu es dans le top 3 et t'es pas numéro 3. Sache que il y a des enfants comme moi qui te regardent, qui te regardent et qui te regarderont toujours et qui t'admireront toujours. Merci d'être ce que tu es, merci d'être resté comme tu es. Merci d'être une artiste qui nous encourage. Peut-être que tu le sais pas, mais dans les moments de down, c'est toi qu'on regarde. Et merci, 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 tu es une grande, grande source d'inspiration. Je t'aime vraiment, mon cœur déborde. Ça déborde comme du champomy et je suis trop, trop, trop contente. que tu sois là. Et merci, 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 merci. Tout ce que je peux te dire, c'est merci.
Et tu peux expliquer aux auditeurs qui n'ont pas la référence, évidemment, qui est cette personne?
Tony, c'est une immense chanteuse, une immense artiste qui faisait partie de mon équipe à The Voice, que j'ai choisi. Mm-hmm. Ma première saison d'adulte.
Parce qu'il y avait The Voice Kids pour les auditeurs.
J'avais fait deux saisons avant avec les enfants. Et ma première saison d'adulte, je tombe sur cette Tony qui va, je crois, jusqu'en finale. Qui est une immense artiste, puis après j'ai appris à la découvrir, c'est une jeune femme géniale.
Mais tu entends le message quand même qu'elle te livre,
c'est très
au
émouvant,
niveau de la sincérité.
Ça me monte les larmes, hein, ouais. Direct. Hein.
C'est rigolo parce que ce ratio dont tu as parlé tout à l'heure avec Diams, on ressent la même chose dans la transmission.
J'espère que en tout cas mes combats gagnés et mes épreuves, mes désillusions aussi, j'espère que je peux les partager avec des artistes plus jeunes que moi pour qu'ils soient moins déçus et toujours plus forts.
Et garder l'espoir et cette petite flamme dont tu
toujours,
parlais.
Toujours.
Et cette jolie étoile au-dessus de la tête. En tous les cas,
Tony, je t'aime aussi, si tu m'entends.
Mais évidemment que tu t'entends. Tout le monde t'écoute le vendredi soir sur Nostalgie. Et enfin, on va terminer avec une personne, je crois, qui appelle de Niort, ne serait-ce point Jonathan.
What's happened? Sir, le WhatsApp de Jean-Luc.
Salut Ahmed, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Jonathan, je viens de Niort dans le 79. Bon, tout le monde le sait, tu as atteint la Lune. Maintenant, quel est ton prochain objectif?
C'est Mars.
Alors, bizarrement, au contraire, c'est garder bien les pieds sur Terre. Je crois que j'arrive à un âge où plus que jamais, j'ai envie d'être très ancré, très, très, très terre à terre.
De garder les racines, de garder
je me retourne de plus en plus.
Valeurs. Parce que là, t'es une maman. Je trouve ça quand même assez fou. Il y en a qui se sont laissés bercer par la ritournelle de la profession. Il y a eu des dérives et on va évidemment pas en parler. Mais quoi qu'il arrive, toi, tu es resté les pieds sur terre, mère de famille derrière la grille le soir pour attendre les enfants. Donc l'idée, c'est de rester tel que tu as toujours été, en fait.
Je crois que quand on est ado, quand on est jeune femme ou jeune homme, on n'a qu'une envie, c'est au contraire, c'est un peu couper le cordon avec ses parents, se faire sa propre, écrire sa propre histoire, faire sa vie, comme on dit, hein, tout simplement, voler de ses propres ailes. Et moi, oui, viser la lune, évidemment, toujours. Mais maintenant que moi, je suis parent, que j'ai perdu ma doyenne, ma mamie, plus que jamais, j'ai envie, au contraire, de me réancrer, d'être enraciné plus que jamais et transmettre à mes enfants tout ce qu'il y a de plus important pour eux et pour que eux puissent à un moment donné se dire on est assez armés nous aussi maintenant pour vivre notre vie.
Ça fait partie de la petite famille, effectivement, de On se tutoie. Je suis très très heureux. Voilà, c'est un nouveau single qui s'appelle Triste. C'est une femme extraordinaire. Allez la voir en tournée, c'est l'année prochaine, donc vous allez avoir le temps. Mais quand même, que vous habitiez Lyon, Montpellier, Marseille, Nantes, Rouen, Reims, elle va un petit peu partout. Elle sera même à Paris dans un an, quasiment jour pour jour. Je ferai tout, bien évidemment, pour être là ou ailleurs.
J'espère.
Toulouse, Bordeaux, Lille. Je crois qu'il faut vraiment aller voir cette dame de la chanson. On dirait que tu as toujours 20 ans dans ta tête. Ce qu'il y a de bien, c'est que tu t'enracines dans les vraies valeurs, les valeurs de la maman que tu es, la famille et puis la transmission. J'ai eu la chance et j'ai la chance de connaître la tienne depuis plusieurs années. Je voulais juste te remercier parce que cet album Triste n'est pas si triste que ça, finalement.
Non.
Et ça a été une grande joie de partager cette heure avec toi, mon Amel.
Franchement, plaisir plus que partagé. Beaucoup d'émotions, j'en attendais pas moins quand je savais qu'on allait passer ce temps. Merci pour tout ce travail de recherche et puis pour tous les mots, quoi. Ça donne vraiment beaucoup de force et les combats, ils se mènent pas tout seuls.
Ouais, ça c'est clair.
On a aussi des gens qui vous tendent la main, qui vous regardent avec beaucoup d'amour et de bienveillance et tu fais partie de ces gens-là, donc merci.
Merci à toi. C'était la belle Amel qui n'est pas si triste que ça. On se quitte avec Triste, mais on est tout gai de t'avoir eu. Plein de belles choses pour toi et pour ta famille.
Merci beaucoup. Merci. Oh, c'était pour me faire craquer aujourd'hui, là. Ça s'entend dans mes accords, moi. Y'a des larmes
dans ma voix. On se tutoie sur Nostalgie.
Avec Jean-Luc Reichmann. Tous les vendredis soirs, 19h-20h. Et à tout moment, en podcast, sur l'appli Nostalgie.